Oscillation intemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée, pas pareil, sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de création sonore et musicale d'au-delà notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à 19h, Oscillation intemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un orchestre ou chef d'orchestre, ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison en toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation intemporelle est animée par Mario Micro et à la conception avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Diffusion le 3 mai, rediffusion le 17 mai. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site de Fréquence 7 en lecture directe ou téléchargée. Pour cette oscillation intemporelle du joli mois de mai, une grande œuvre, la 9e symphonie de Franz Schubert, dite « La Grande ». Et Philippe nous en parle.
Franz Schubert est né en 1792 à Vienne et est mort en 1828 à Vienne. C'est un Viennois de Vienne qui n'a pas beaucoup bougé. C'est un personnage étrange, c'est un personnage avec un certain mystère quand même. C'est quelqu'un qui, dont les parents étaient instituteurs. Il a connu un logement d'instituteur, donc il ne manquait de rien, c'était quelqu'un de modeste, simple, voilà. Et puis en fait, il passe sa vie à Vienne à habiter chez les uns et les autres. Il a très peur de la solitude, donc il vit chez ses amis, il vit chez son frère, et il va mourir en 1828 chez son frère. Les deux maisons de Schubert, là où il est né, là où il est mort, on peut encore les visiter. C'est vraiment bouleversant parce que c'est des petites maisons très simples. L'appartement de son frère, c'est tout petit.
Et c'est là où il composait ?
Alors oui, il a composé. Il a composé jusqu'au bout.
Dans sa petite chambre ou
dans sa petite chambre, alors il était bien malade. Hein. Il a contracté la syphilis assez tôt. Ça l'a entraîné dans des complications, bien évidemment. Et il est mort à 31 ans. Et il a composé un petit peu moins de 1000 pièces jusqu'à sa mort. C'est phénoménal, hein. 1000 pièces. Alors, Schubert est un Viennois de Vienne qui va quand même recevoir une vraie éducation musicale. Il va aller au Konvinkt, donc c'est le grand lycée musical de Vienne, où un de ses professeurs n'est autre que Salieri, donc c'est quand même pas mal. On voit le talent de Schubert, on l'emmène sur des formes très classiques et très, très attendues à l'époque à Vienne, comme la symphonie, le quatuor, bon, tout ça Schubert, il n'est pas contre. Mais on le sait, c'est un compositeur de l'intime. Donc là où il va se révéler complètement, c'est en composant des Lieder. Le Lieder, c'est une forme pour voix et piano. Ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 6 minutes. Et c'est basé sur des poèmes, donc c'est narratif. Ça va raconter et décrire quelque chose. C'est presque un opéra en miniature, sauf qu'au lieu de durer 3 heures, ça dure 4 minutes. Et au lieu d'avoir l'orchestre et plein de voix, il y a un chanteur qui raconte tout et le piano qui est là pour faire vivre ça. Et Schubert va composer 600 Lieder. Et il sera connu pour ça, puisque les Lieder sont édités dans des gazettes que les amateurs achètent afin de les chanter chez eux. Il y a une éducation musicale à l'époque dans la société, qui notamment au niveau de la bourgeoisie, qui permet ça. Donc Schubert, il est connu pour ça. Il est connu comme un compositeur de Lieder. Il a un cercle d'amis. Ce sont des poètes, ce sont quelques musiciens, mais c'est surtout des gens qui écrivent. Voilà. C'est un strict contemporain de Beethoven, à Vienne. Ils ne se rencontreront jamais. Et Schubert, qui était peut-être maladivement timide, introverti, on l'a beaucoup dit, va offrir une pièce qu'il va dédier à Beethoven. Il va composer une pièce pour la seule forme pour laquelle Beethoven n'a jamais composé, c'est le piano à 4 mains. Beethoven a écrit beaucoup, mais rien pour piano à 4 mains. Donc Schubert va lui dédier une pièce pour piano à 4 mains. Voilà. Et on sait qu'en 1827, en mars 27, pour les obsèques de Beethoven, Schubert sera appelé pour être l'un des porteurs du cercueil. Je pense que Schubert était très admiratif de Beethoven et que Beethoven a peut-être même pas vu que Schubert existait. Beethoven, c'est un bulldozer dans l'histoire de la musique.
C'est pas la même génération.
Alors, il y a 20 ans de plus pour Beethoven.
C'est ça. Hein.
Il y a 20 ans de plus. Ça compte à l'époque. Hein.
Mais oui.
Ça compte. Hein. Et puis, Beethoven est un, je disais, un bulldozer. C'est-à-dire que quand il se met en colère, tout le monde le sait, y compris contre les princes. Schubert, lui, il rase les murs et il veut se faire tout petit. Hein. Donc, Schubert va tout de même composer des symphonies qui vont connaître des destins étranges, puisque la première et la deuxième sont vraiment des œuvres qui sortent du Konvinkt de Vienne, à l'époque où il était élève de Salieri. Donc, c'est une facture très classique. Très très traditionnel. Moi j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dans cette musique, qui est vraiment une musique de jeune homme. Il a 15 ans. Elles sont difficiles à réaliser parce qu'il ne tient pas compte de ce que ça demande comme ressources physiques pour les interprètes. C'est on y va, allez paf, et puis on s'arrêtera à la fin. Donc on a du mal des fois à reprendre son souffle dans cette musique un peu exubérante qui est une musique de jeunesse. Une troisième symphonie qui est plus italienne, avec des contours plus soignés, on va dire. La quatrième est un tournant, parce que c'est la symphonie dite tragique. On a une patte romantique qui là est plus évidente. La cinquième, c'est un retour aux hommages à Mozart et à Haydn, mais elle est d'un équilibre magnifique, elle est d'une palette, d'une grande sérénité. C'est très 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 belle œuvre à porter également en concert. La sixième, c'est peut-être la plus creuse. Bah oui, elle est mignonne, elle est juste mignonne. Voilà, mais si Schubert l'avait pas composée, ça, peut-être ça manquerait pas. C'est affreux ce que je dis. Hein. Mais oui, c'est affreux. Mais c'est pas parce que c'est Mozart que tout est fascinant, et c'est pas parce que c'est Schubert que tout est. On a le droit d'être. Enfin, quand on voit certains chefs-d'œuvre, on se dit c'est pas tout du même niveau quand même, des fois.
Oui.
Et c'est pas grave.
Mais non, parce que lui non plus.
Enfin, bah non,
peut-être
bah non.
Des jours où ça allait moins.
Oui, voilà, et c'est pas grave. Et puis surtout, ça permet de continuer le chemin vers quelque chose d'autre. Et du coup, après cette sixième, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'écrit pas la septième. Mais on arrive à la huitième, qui est l'inachevée.
Oui.
Alors c'est une espèce de curieux mélange, parce que la septième serait-elle la huitième et la huitième est-elle la septième? On ne sait pas, on n'a jamais su. Il y a des bouts, il y a des extraits, il y a des choses. Bon, toujours est-il qu'un jour, il se dit, ben, moi j'ai fait ma symphonie en deux mouvements, elle est en si mineur, elle est finie. Alors qu'une symphonie, à l'époque, c'est quatre mouvements. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et il l'a fait en deux et c'est fini. Et l'éditeur va l'appeler la symphonie inachevée. Et après cette symphonie, cette huitième symphonie, Schubert compose sa neuvième symphonie qui est gigantesque. C'est de la musique phénoménale. Tout Schubert y est, c'est-à-dire à la fois l'élan, la tendresse, la douceur, la profondeur, le vide. Schubert, c'est un compositeur qui frôle toujours les abysses et le vide. On frôle tellement le silence par moments. Que si on fait un pas de plus, on tombe et il n'y a plus rien. Mais il sait nous emmener là, au bord, à chaque fois du précipice, et il sait s'arrêter et revenir. Et il n'y a pas de pathos non plus, on n'est pas dans la chose démonstrative. Elle est extraordinaire, cette neuvième. Elle commence par un grand portail, avec les corps qui nous donnent une introduction solennelle, majestueuse. Et c'est un monde de douceur qui après va passer à son tour sous le portail en question. Mouvement lent est formidable, le scherzo magnifique, le final ébouriffant, enfin c'est une œuvre bouleversante. Et quand Schubert va la présenter au Musikverein de Vienne, on va lui dire, mais c'est n'importe quoi, c'est injouable votre truc, mais qui c'est qui voudra d'une partition comme ça? Et Schubert ne l'entendra jamais.
Oh.
Il ne l'a pas entendu.
Que dans sa tête.
Que dans sa tête. Et du coup, elle va être créée vraiment à Vienne, quelque chose comme 30-40 ans plus tard. Il faut aussi resituer quelque chose, c'est que Schubert à Vienne connaît lui aussi, comme Haydn, comme Beethoven, les guerres napoléoniennes. Mmh. C'est pas rien, puisque c'est la présence d'armées d'occupation. Et tout ça, ça fait peur. Donc ce qui fait qu'à la fois, il faut être très classique quand on a 15-16 ans et qu'on a des prétentions à devenir compositeur. Il ne faut pas effrayer, il ne faut pas faire peur, il ne faut pas... Voilà. Et puis quand tout ça est terminé, quand Napoléon est battu et que les Habsbourg reviennent... au pouvoir, mais d'une manière encore plus raide qu'avant, on a cette période des années 1820 à Vienne, c'est le Biedermeier, c'est-à-dire c'est un art qui s'applique au mobilier, qui s'applique à la peinture, qui s'applique à plein de choses, mais qui s'applique aussi à la musique. C'est-à-dire, en gros, il n'y a rien qui doit dépasser.
Mmh.
On est dans la rigueur, dans la morale, une espèce de puritanisme qui revient, et la police surveille les artistes. On le sait, il y a des rapports de police qui concernent Schubert, parce que ces petites réunions avec ses amis poètes et à faire des Schubertiades, comme on dit, des petites soirées, ben, on n'aime pas ça. Lui, il ne sera pas embêté. Il y a des rapports de police sur lui, mais il ne sera pas embêté. Par contre, Grillparzer et d'autres amis poètes seront vraiment persécutés par la police viennoise de l'époque. Donc une grande symphonie avec quelque chose... Non, il vaudrait mieux une petite symphonie comme la sixième, plus classique, qui ne dérange personne, que voilà, une espèce de produit de consommation sans aucun danger. Et je ne dis pas que Schubert se débat avec ça, il vit avec. Il vit avec ça. Mais par contre, quand il propose effectivement sa symphonie en deux mouvements, la symphonie inachevée, ou sa neuvième symphonie, qu'on va appeler plus tard la grande, il n'y a pas de place pour ça. Et c'est malvenu. Donc il nous laisse cette neuvième symphonie, qui est vraiment une expérience. Moi, je l'ai dirigée une fois, et c'est vraiment une expérience de traversée. Un peu comme les suites de Bach. Voilà. Il y a des choses qui fondent quelque chose de très très profond en nous, et ça en fait partie sur notre humanité, sur notre rapport au temps, sur comment on épouse une courbe mélodique avec le compositeur, comment il nous l'éclaire différemment avec ses harmonies à lui. C'est vraiment une expérience.
Nous écoutons la version du Philharmonique de Vienne, dirigée par John Eliot Gardiner.
Thank you. Thank you.
Thank you.